VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 8 décembre 2021, en direct de Washington, Jean-Roger Billon
et Eric Manilakidza.
On commence par les titres.
En Gambie, le président élu s'engage à limiter les mandats présidentiels.
Au Mali, l'ancien député Oumar Mariko placé en détention, le chef du parti Sadi est accusé de diffusion d'injures à l'encontre du premier ministre de transition Choguel Kokala Maïga.
Afrique du Sud, le Parlement rejette le projet de loi controversé de redistribution de terres.
Le variant Omicron ne semble pas plus dangereux que Delta, le variant qui circule le plus dans le monde, a déclaré Anthony Fauci, éminent scientifique et conseiller principal en santé de la Maison-Blanche.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Le président gambien Adama Barrow, à peine réélu, s'est engagé hier à instaurer une limitation des mandats présidentiels après une réforme de la Constitution avant la fin de son mandat de 5 ans. Il a tenu sa première conférence de presse après sa victoire au scrutin de samedi. Le point avec Abdelrahman Dia.
Accédant aux demandes des partenaires internationaux de son pays, Adama Barrow a aussi assuré qu'il s'emploierait à ce que le président soit élu à la majorité absolue, y compris si cela nécessite un second tour, alors qu'il est actuellement élu sur un tour à la majorité relative. « Je suis un grand fan de la limitation des mandats, je suis un grand fan de la majorité absolue », a-t-il dit. La Constitution de 1997 ne fixe aucune limite au nombre de mandats. Les partenaires de la Gambie jugent une réforme indispensable pour contenir les pouvoirs du président et consolider la fragile démocratie gambienne. M. Barrow s'est en revanche gardé de s'engager à suivre les recommandations d'une commission chargée d'enquêter sur les crimes commis par l'État et ses agents sous l'ancien dirigeant Yahya Jammeh. La commission lui a remis en novembre un rapport préconisant que les responsables soient jugés. M. Barrow a assuré que la décision n'appartenait pas à lui seul et que justice sera faite ainsi que la réconciliation et les réparations.
Direction le Mali, suite à un enregistrement du premier ministre Choguel Kokala Maïga qui a fuité sur les réseaux sociaux en début de semaine dernière où il n'est pas du tout tendre avec les acteurs de la révolution malienne de mars 1991. Oumar Mariko, responsable de mouvement estudiantin à l'époque, n'a pas tardé à réagir, sauf que cette réaction qui était censée rester dans un cadre intime s'est retrouvée sur les réseaux sociaux poussant le tribunal de la commune 4 de Bamako à se saisir du dossier. Trois personnalités ont été donc écroués. Les détails avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
Après 48 heures de garde à vue, Oumar Mariko, président du Parti Solidarité Africaine pour la démocratie et l'indépendance Sadi, a été finalement placé sous mandat de dépôt hier mardi. Il lui est reproché par le tribunal de la commune 4 des faits d'injure contre le premier ministre Choguel Kokala Maïga par le biais d'un système d'information et de communication. Il partage son sort avec deux autres co-accusés à qui il est reproché d'avoir tenu et diffusé ses propos. Ses avocats, dont l'ancien ministre de la Justice, maître Mamadou Ismaël Konaté, promettent de déposer plainte contre X car estimant que les enregistrements ont été obtenus de manière illégale. En attendant, leur comparution a été fixée au 15 février 2022 par le parquet du tribunal de la commune 4. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
Toujours au Mali, un casque bleu grièvement touché dans l'explosion d'un engin explosif improvisé au passage de son véhicule le 22 novembre près de Tessalit dans le nord du Mali a succombé à ses blessures, ont déclaré hier les Nations Unies. Le soldat, dont la nationalité n'a pas été précisée, est mort lundi à Dakar, la capitale du Sénégal, où il avait été amené pour être soigné avec deux autres soldats de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, blessé au cours du même incident, selon un communiqué.
En Centrafrique, Amnesty International a déploré aujourd'hui que des dizaines de personnes soupçonnées de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité sont toujours en liberté. Dans un communiqué, l'ONG regrette que sur les 25 mandats d'arrêt décernés jusqu'à présent par la Cour pénale spéciale CPS de Centrafrique, un seul a été exécuté, aboutissant à l'arrestation du ministre Hassan Bouba Ali, libéré quelques jours plus tard par les autorités centrafricaines en dehors de toute décision judiciaire.
L'ONG a appelé les autorités politiques et l'ONU à faire en sorte que tous les responsables présumés de crimes de droit international soient soumis à de véritables enquêtes et jugés dans le cadre de procès équitables.
L'armée ougandaise a critiqué mardi la décision des États-Unis d'imposer des sanctions au patron des services de renseignement militaire pour de graves violations des droits de l'homme, se disant déçu par cette initiative de la part d'un pays ami.
Le chef du renseignement militaire ougandais, le général de division Abel Kandiho, a été sanctionné par les États-Unis en raison de son implication présumée de celle de ses services dans des passages à tabac, des agressions sexuelles et des électrocutions. Des militants des droits de l'homme avaient précédemment accusé les services de renseignement militaire d'exactions contre des membres de l'opposition, notamment des disparitions forcées. Le chef de l'opposition ougandaise, Bobi Wine, a affirmé que des centaines de ses partisans avaient été enlevés par les forces de sécurité à l'approche des élections de janvier dernier.
En Afrique du Sud, le projet de loi sur la réforme foncière a été rejeté hier par le Parlement. C'est une réforme à laquelle tenait le président Cyril Ramaphosa, qui s'était engagé à corriger ce qui est considéré comme des injustices liées à la dépossession des terres durant l'apartheid. La question de la redistribution des terres avec ou sans compensation divise toujours et passionne les débats dans la nation arc-en-ciel. Le point avec Rosine Munezero.
La proposition n'a pas recueilli la majorité des deux tiers auprès des 400 députés. Elle a été rejetée par 204 voix pour et 145 voix contre. Depuis la fin de l'apartheid, les trois quarts des terres agricoles sont toujours en main de la communauté blanche, qui ne représente que 8% des 59 millions des Sud-Africains. Pendant 4 ans, un comité a travaillé pour remédier à un crime contre la majorité noire, a estimé avant le vote Matole Motsheka, porte-parole de l'ANC. Mais l'Alliance démocratique a voté contre le projet qui, selon le premier parti d'opposition, viole le droit de la propriété et crée de l'incertitude. Tout comme le parti radical des combattants pour la liberté économique de Julius Malema, qui estime que ce projet ne va pas assez loin. Mais cette affaire est loin d'être terminée. Un autre projet de loi sur l'expropriation est examiné actuellement au Parlement et devrait être voté l'année prochaine.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le variant Omicron ne cause pas de cas plus graves que le variant Delta. Cela est quasiment certain, a fait savoir l'éminent scientifique américain Anthony Fauci. Les explications de Mohamedou Oumfa.
Omicron est clairement hautement transmissible, probablement davantage que Delta, quasi hégémonique dans le monde, selon le docteur Fauci. Les résultats des expériences en laboratoire sur l'efficacité des anticorps provenant des vaccins actuels devraient être connus dans les prochains jours, d'ici une semaine, a-t-il dit. Les données épidémiologiques mondiales montrent également un taux plus élevé de réinfection avec Omicron et que le variant échappe probablement mieux à l'immunité vaccinale. Mais il est quasiment certain qu'il n'est pas plus grave que Delta, a affirmé Anthony Fauci. Il y a quelques signes montrant qu'il se pourrait même qu'il soit encore moins grave, a-t-il ajouté. En l'état, un virus plus transmissible, mais qui ne provoque pas de forme sévère ni de hausse des hospitalisations, serait le scénario le plus favorable, a-t-il expliqué. Pour lutter contre la propagation de ce variant, désormais présent dans au moins 38 pays, Anthony Fauci prône la prudence, notamment lors des voyages et le port du masque en intérieur si on ignore le statut vaccinal des autres personnes présentes. Ceux qui sont éligibles à la troisième dose de vaccin devraient également la recevoir au plus vite.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré hier cas contact après avoir approché un responsable onusien malade du Covid-19. S'est mis à l'isolement quelques jours. Âgé de 72 ans, le chef de l'ONU a annulé ses prochains engagements physiques. Antonio Guterres devait ce soir être l'invité d'honneur de l'association de presse onusienne pour son gala annuel à Manhattan et jeudi participer à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur les défis du terrorisme et du changement climatique dirigée par le président du Niger, Mohamed Bazoum.
Un accord a été trouvé hier pour permettre au Congrès américain de voter prochainement sur un relèvement du plafond de la dette et éviter ainsi un défaut de paiement des États-Unis, une menace imminente aux conséquences potentiellement catastrophiques. Après des semaines de négociations, l'opposition républicaine a finalement donné hier leur aval à une procédure parlementaire complexe grâce à laquelle les démocrates n'auraient besoin que de leur voix pour relever le plafond de la dette, ce qui permettrait au Congrès de relever le plafond de la dette avant le 15 décembre.
Et le président américain Joe Biden s'entretiendra demain jeudi avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky pour discuter de l'entretien qu'il a eu hier avec Vladimir Poutine, a fait savoir mardi son conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan.
Vous écoutez VO Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com.
À présent, la Minute Éco avec Rosine Mounizero.
Énergie, climat, éducation, santé, agriculture, autonomisation des femmes, appui au secteur privé, l'Agence française de développement AFD s'est engagée mardi à investir 500 millions d'euros d'ici 2025 dans divers secteurs prioritaires en République démocratique du Congo. Un protocole d'entente a été signé à Kinshasa entre le ministre congolais des Finances Nicolas Kazadi et le directeur général du groupe AFD Rémi Riou, en présence notamment du président de RDC Félix Tshisekedi, précise l'AFD dans un communiqué. Le coût élevé de la piraterie maritime dans le golfe de Guinée affecte lourdement les pays côtiers de l'ouest de l'Afrique, selon un rapport de l'ONU qui pourrait pousser le Conseil de sécurité à agir pour cette zone, comme il a fait à l'est pour les eaux somaliennes. Selon ce document de l'ONU, l'Asie du Sud-Est et le golfe de Guinée ont connu presque le même nombre d'incidents en 2020, mais 99% touchés par des enlèvements dans le monde en 2020 travaillaient dans le golfe de Guinée. Le Qatar, premier producteur et exportateur mondial de gaz naturel liquéfié, prévoit un déficit budgétaire réduit en 2022 par rapport à celui de 2021, alors que les prix des hydrocarbures repartent à la hausse après une forte baisse liée à la pandémie de Covid-19, a annoncé mardi le ministère des Finances. Avec une estimation prudente d'un prix du baril de brut à $55 pour l'année prochaine, contre $40 pour le calcul de 2021, le Qatar devrait voir ses recettes liées aux hydrocarbures grimper à environ 47,9 milliards d'euros, soit une hausse de 22,4% par rapport au budget précédent.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Ligue des champions en Europe, l'Atlético Madrid a arraché un billet presque inespéré pour les huitièmes de finale. Grâce à sa victoire 3-1 face à Porto, le Paris Saint-Germain a battu le club Bruges avec deux doublés signés Kylian Mbappé et Lionel Messi. Manchester City est assuré de la première place du groupe devant le PSG en dépit de sa défaite 2-1 à Leipzig. L'AC Milan a été renversé à domicile par Liverpool 2-1. Buteur sur pénalty contre le Sporting Portugal 4-2. L'avant-centre international ivoirien Sébastien Haller de l'Ajax Amsterdam a inscrit son 10e but cette saison en Ligue des Champions. Dans l'autre rencontre, Dortmund a étrié Besiktas pour l'honneur 5-0. Le Borussia sera renversé en Ligue Europa. Le choc Real-Inter a souri aux Madrilènes 2-0. Dans l'autre match, le Shakhtar Donetsk et le Shérif Tiraspol se sont neutralisés 1-1. À suivre, entre autres rencontres ce soir, Juventus Malmö, Bayern Munich FC Barcelone, Manchester United, Young Boys de Berne. 6 joueurs et 2 membres du staff de Tottenham ont été testés positifs au Covid-19, affirment plusieurs médias anglais. Ces cas de Covid pourraient avoir des répercussions sur les matchs de championnat à venir à Brighton dimanche, puis contre Leicester jeudi et Liverpool le dimanche suivant. Les Spurs viennent de se replacer dans la course à la Ligue des Champions avec 3 victoires de rang en Premier League. Boxe, la WBC a décidé d'imposer à l'anglais Tyson Fury de défendre sa ceinture de champion du monde des lourds contre son compatriote et challenger officiel désigné, Dillian White, en 2022. La WBC a initialement décidé en octobre, après sa victoire contre l'Américain Deontay Wilder, que Fury n'aurait à affronter White que s'il n'était pas en mesure de combattre pour l'unification des titres contre l'Ukrainien Oleksandr Usyk, détenteur des ceintures WBA, IBF et WBO, après expiration du délai de 30 jours accordé aux deux potentiels adversaires pour se mettre d'accord. La WBC a décidé de faire de White le prochain adversaire de Fury, sauf s'il renonce et sacrifie en effet son titre. Fury, qui avait dit vouloir prendre du repos avant de reboxer, devra bel et bien affronter White, un affrontement qui pourrait se dérouler en mars à Cardiff ou Manchester, selon divers médias britanniques.
Page des sports signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Jean-Roger Billon. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, des affrontements ont eu lieu lundi dans le nord entre éleveurs et pêcheurs qui ont fait au moins 10 morts et des dizaines de blessés, forçant des centaines de personnes à fuir vers le Tchad voisin. Ces affrontements ont éclaté à cause des problèmes d'accès à l'eau que les autorités ont encore du mal à résoudre. Le point à Yaoundé avec Moki Edwin Kinzeka, le récit est de Mouamadou Mfa.
Selon les leaders des communautés Mousgoum et Arab Choua, un conflit sanglant a éclaté lundi entre des éleveurs de bétail et des pêcheurs à Ouloumsa, un village situé près de la frontière nord du Cameroun avec le Tchad. Des responsables locaux camerounais affirment qu'au moins 10 personnes ont été tuées et plus de 20 blessées, dont 10 dans un état critique. Matt Masra est un leader communautaire dans le département du Logone-Chari.
Nous avons demandé à nos populations d'arrêter de se combattre. Pour quelques herbes fraîches, on ne peut pas brûler des maisons, ôter des vies à des gens qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. Nous allons nous rapprocher du gouvernement et de l'administration pour que des solutions idoines soient trouvées. C'est un problème de survie économique, ce n'est pas un problème ethnique. Parce que placer ça sous l'angle ethnique veut dire qu'on ne s'en sortira jamais.
Le gouvernement de Yaoundé confirme l'attaque et ajoute que plusieurs centaines de personnes se sont enfuies au Tchad. Des militaires ont été déployés pour maintenir la paix dans cette zone qui n'en est pas à son premier conflit. En août, des responsables camerounais indiquent qu'au moins 11 000 civils avaient fui le Logone-Chari vers le Tchad. C'était après des affrontements pour l'accès à l'eau entre des éleveurs et pêcheurs qui ont fait au moins 40 morts et 70 blessés. Le gouverneur de la région, Midiyawa Bakari, qui s'est rendu sur les lieux, explique que les pêcheurs ont l'habitude de faire des trous, de monter des digues pour retenir de l'eau et les poissons. Mais il se trouve que les éleveurs viennent également y abreuver leurs troupeaux. Et parfois, les bovins tombent et périssent dans ces trous. Selon lui, les pêcheurs avaient accepté d'arrêter de creuser et les éleveurs avaient accepté de ne plus amener leur bétail dans des zones réservées uniquement à la pêche. Un accord qui n'a manifestement pas été respecté.
Les solutions ont déjà été annoncées par le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales. Le ministre a introduit de nouveaux systèmes parce que la pêche telle qu'il s'est fait dégrade l'environnement et même l'espèce parce que tout ce qui entre là-bas, les petits poissons, les gros poissons sont déjà détruits. Et c'est la même chose pour l'élevage. Les conditions de vie de ces populations seront améliorées.
Membre de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, une coalition d'organisations de la société civile qui font de la sensibilisation sur les problèmes climatiques et de justice environnementale, Augustine Jamshi avertit que ces affrontements liés aux ressources en eau vont se multiplier et devenir plus complexes dans le bassin du lac Tchad, car la quantité d'eau du lac rétrécit énormément, tandis que le nombre de personnes et d'animaux qui en ont besoin pour leur survie augmente.
Il est nécessaire que le gouvernement éduque la population à utiliser judicieusement les ressources et fournisse les moyens de subsistance alternatifs. Il faut explorer de nouvelles technologies comme l'irrigation, le captage et le stockage de l'eau et utiliser les réserves d'eau souterraines. C'est la seule façon de procéder lorsque la population est impliquée dans la prise de décision. Cela a tenu beaucoup les tensions car les conflits liés à l'eau sont très, très complexes.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Les Nigérians se tournent vers le bois et le charbon de bois moins cher pour cuisiner après que les prix du gaz de cuisine ont doublé en octobre. Les fournisseurs du gaz liquéfié et les écologistes exhortent les autorités à faire baisser les prix pour les consommateurs et prévenir ainsi une augmentation de la pollution due à la fumée des feux de bois. Un reportage de Timothy Obiezu depuis Abuja, le récit est de Rosine Monezero.
«
Fedra Igri s'apprête à préparer la soupe à fang pour sa famille. Mais il y a un problème, son réservoir de gaz de cuisine est vide. Pour le remplir, cela va coûter environ $25, soit plus du double de prix depuis octobre.
Cette pénurie de gaz et le prix élevé, c'est insupportable parce qu'aller au marché en ce moment, acheter des produits alimentaires est coûteux. Et revenir pour cuisiner à nouveau avec le gaz est coûteux, ce n'est pas facile.
Les revendeurs nigérians attribuent la hausse du prix du gaz à l'introduction en août d'une taxe à l'importation ou TVA de 7,5% sur le gaz dans le but d'élargir les revenus du pays. Jusqu'à 70% du gaz consommé au Nigeria, le plus gros producteur de pétrole du continent, provient des importations et le pays possède de grandes réserves de gaz. Les économistes affirment aussi que la dévaluation du Naira, la monnaie nigériane, et l'afflux instable en devises étrangères ont contribué à la hausse des prix. Conséquence, de nombreux Nigérians, comme Igri, se tournent vers des alternatives moins coûteuses, c'est-à-dire le bois de chauffe et le charbon de bois.
Nous l'utilisons simplement parce qu'au moins c'est gérable. Si vous voulez aller pour le gaz, c'est assez cher.
La demande croissante de charbon de bois aide les revendeurs locaux, comme Achirou Mohamed.
Les affaires n'étaient pas aussi bonnes avant parce que plus de gens utilisaient le gaz. Maintenant, ils achètent tous du charbon de bois.
Mais cette forte demande de charbon de bois pourrait entraîner une grave déforestation, préviennent les écologistes. Le défenseur de l'environnement, David Michael Terungwa, souhaite que les autorités annulent la taxe sur l'importation de gaz.
Il y aura une déforestation massive, ce qui est déjà en cours, mais cette hausse des prix va même aggraver la situation parce que le Nigéria moyen pourra utiliser du gaz, mais à l'heure actuelle, tout le monde ne peut pas se le permettre.
Le mois dernier, l'Association nigériane des revendeurs de gaz a demandé au président Muhammadu Buhari de s'attaquer à ce problème. Les autorités n'ont pas encore répondu, mais lors du récent sommet mondial sur le changement climatique, le président Buhari s'est engagé à mettre fin à la déforestation d'ici 2030 et aux émissions de carbone d'ici 2060, ce qui rend encore plus sceptiques les défenseurs de l'environnement.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, quelle réponse régionale face aux groupes armés ? Fin novembre, quatre pays, le Burkina, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Togo, ont lancé une opération conjointe contre les groupes djihadistes. L'armée ougandaise mène depuis quelques jours des opérations contre les ADF dans l'est de la RDC. Et il y a quelques mois, des soldats rwandais sont venus à la rescousse du Mozambique pour vaincre les djihadistes dans la province du Cabo Delgado. Quelle stratégie régionale face aux djihadistes ? La mutualisation des forces militaires peut-elle venir à bout de ces groupes armés ? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voafrique.com.
Au moins 38 pays ont signalé des cas du nouveau variant Omicron du coronavirus. Le président américain Joe Biden qualifie le variant de sujet de préoccupation et non de panique. Les scientifiques s'efforcent de déterminer s'il est plus dangereux que d'autres souches. Pendant ce temps, des mesures de précaution menacent la reprise mondiale après la pandémie. L'Afrique du Sud criant au scandale par rapport aux restrictions de voyage imposées. Le reportage d'Arash Abassadi est repris par Lionel Gaïma.
Noël en quarantaine. Cela pourrait résumer la saison des vacances pour les arrivées potentielles des pays d'Afrique australe à l'aéroport Heathrow de Londres. Cela après des informations faisant état de pénurie de chambres dans les hôtels dits de quarantaine, car le Royaume-Uni exige désormais un isolement obligatoire à l'arrivée d'Afrique australe en raison du variant Omicron du coronavirus. Reza Martin a rendu visite à sa mère âgée en Afrique du Sud. Elle dit à Sky News que l'évolution des restrictions de voyage frustre ses projets de vacances.
Cette turbulence de la réservation et du changement de vol, puis de l'organisation, découvrir où vous obtenez vos tests PCR et conduire 16 km pour aller le réserver. Ça fait des ravages. Si vous forcez les gens à faire quelque chose, permettez-leur de le faire.
Le Royaume-Uni a récemment imposé une quarantaine de 14 jours aux voyageurs en provenance de ce qu'il considère comme une liste rouge des pays à haut risque comme certains en Afrique australe. Les États-Unis ont aussi restreint les voyages en provenance de plusieurs pays d'Afrique australe. S'exprimant dimanche dans l'émission This Week sur ABC, la directrice du CDC, Rochelle Walensky, a expliqué les raisons des restrictions.
Lorsque ces mesures ont été mises en place, les seuls cas que nous connaissions étaient en Afrique australe. Et vraiment, ces restrictions ont été mises en place pour empêcher l'arrivée de nouveaux variants aux États-Unis et pour protéger le peuple américain des nouveaux variants.
Lors d'une récente conférence de presse en Côte d'Ivoire, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a qualifié les interdictions de voyage de non scientifiques. Il a déclaré qu'elles sont une gifle en plein visage pour les scientifiques africains qui ont détecté pour la première fois le variant Omicron. Cyril Ramaphosa, le président sud-africain.
Bien que nous respections le droit de chaque pays à prendre des mesures pour protéger sa population, la coopération mondiale soutenue dont nous avons besoin pour surmonter la pandémie nécessite que nous soyons dirigés par la science et non par l'émotion et des considérations politiques.
Alors que l'Afrique du Sud lutte contre la quatrième vague de COVID-19, largement due au variant Omicron, la directrice de CDC, Rochelle Walensky, justifie l'approche prudente de l'agence.
Nous savons qu'il y a de nombreuses mutations, plus de mutations que les précédents variants. Beaucoup de ces mutations ont été associées à des variants plus transmissibles, à l'évasion de certaines de nos thérapies et potentiellement à l'évasion de certaines de nos immunités. Et c'est ce que nous surveillons de très près.
Samedi, au moins 16 États américains ont signalé des cas de variation Omicron. Alors que les scientifiques poursuivent leurs recherches sur l'Omicron, les responsables de la santé se préparent à la propagation de ce qu'ils appellent un variant hautement en mutation.
Ici aux États-Unis, la justice a officiellement clos son enquête sur le meurtre d'Emmett Till pour la deuxième fois le 28 août 1955 alors qu'il rendait visite à sa famille à Manny dans le Mississippi. Emmett Till, âgé de 14 ans, un Africain-Américain de Chicago, est brutalement tué, accusé par ses assassins d'avoir flirté avec une femme blanche 4 jours plus tôt. Le procès pour meurtre d'Emmett Till a mis en lumière la brutalité de la ségrégation raciale dans le Sud et a été l'un des premiers élans du mouvement pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Ginny Kapumbu-Villa s'est entretenue sur la question avec Marilyn Sefok de l'Université Howard, ici même à Washington, D.C.
Non, le dossier est clos, mais c'est vraiment navrant que le dossier soit clos parce qu'ils avaient deux coupables qu'un jury qui était complètement blanc a décidé d'acquitter il y a de cela quelques années, je pense qu'il s'agissait de 2007. Et donc, c'est pour la famille d'Emmett Till, pour les cousins, puisque sa mère est morte en 2003, mais pour les cousins, pour tout le reste de la famille, c'est vraiment une conclusion qui est très pesante.
Mais on peut le comprendre, c'est bien une rétraction de la part de l'unique témoin vivant.
L'unique témoin vivant, le témoin vivant central, qui est Mme Caroline Bryant, a rétracté son témoignage, qui est vraiment décrit en long et en large dans le livre de Timothy Tyson sur la mort d'Emmett Till. Et toutes les preuves sont là pour montrer qu'il s'agissait de meurtre, de lynchage, de quelque chose d'absolument brutal, de sauvage, qui a eu lieu en 1955.
Pourquoi, selon vous, ce retournement de situation après investigation, cette rétraction?
Je pense qu'ils ont jugé que le témoin ayant déjà 87 ans et que les faits s'étant produits plusieurs décennies auparavant, ils voulaient simplement classer l'affaire. Mais cela montre une fois de plus qu'il n'y a pas toujours justice dans ce pays et qu'il y a beaucoup de cas qui malheureusement se sont terminés un peu ainsi, un peu en queue de poisson si vous voulez, et qui n'ont pas rendu justice aux familles africaines-américaines.
Marilyn Sefok de l'Université Howard, ici à Washington, D.C. Ce sera tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Jean-Roger Dion et Eric Mané-Akiza. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot et à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.